Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le Maroc lève ses dernières restrictions d'entrée. Les personnes désirant se rendre dans le royaume n'auront désormais besoin ni du test PCR ni d'une vaccination contre le Covid-19. Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Le camion d'Octobre Rose s'est installé place de la République à Paris. Il y reste jusqu'à vendredi pour offrir des dépistages gratuits. Parmi les personnes présentes, Cécilia Olson, qui a survécu à un cancer du sein. Nous l'écouterons. Emmanuel Macron souhaite que la réforme des retraites soit adoptée avant la fin de l'hiver prochain. Il y a quelques jours, le chef de l'État a brandi la menace d'une dissolution en cas de blocage. Nous écouterons la réaction de Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. L'invité de Pluriel hier soir était Jean-Marc Governatori, coprésident de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice. Il se félicite de l'augmentation du budget pour l'environnement, extrait dans votre journal. Le Maroc annonce la fin des restrictions sanitaires aux frontières, une mesure liée à la baisse de la propagation du Covid-19 dans le pays. Les voyageurs n'auront plus à présenter de résultats de tests PCR négatifs ou de passe vaccinal. En clair, le pays ouvre ses frontières à tous les voyageurs internationaux, vaccinés ou non. Depuis le 18 mai, les voyageurs devaient obligatoirement présenter un passe ou un test négatif de moins de 72 heures en plus de la fiche sanitaire. Après plusieurs semaines de manifestations en Iran, la vive contestation continue, mouvement déclenché par la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté. Près d'une centaine de personnes sont mortes dans la répression de ce mouvement. Le président américain indique que les États-Unis infligeront de nouvelles sanctions aux auteurs de violences contre des manifestants en Iran. Ce mois-ci est un mois dédié en France à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. À cette occasion, le camion d'Octobre Rose s'est installé place de la République à Paris pour offrir des dépistages gratuits. Il y reste jusqu'à vendredi prochain avant de sillonner l'Île-de-France. Parmi les personnes présentes, Cécilia Olson, qui a survécu à un cancer du sein. Cécilia Olson.
J'avais fait un test de dépistage, mais très tardive. Et d'ailleurs, dans un endroit où j'ai même tendance à douter un peu de résultats parce que je suis sortie avec des images qui étaient bonnes. Mais quelques temps après, j'ai effectivement vu mon sein commencer à changer. Et là, j'ai vraiment manqué de sens puisque j'ai trop tardé parce que je me suis dit, ça ne peut pas arriver à moi, ça ne peut pas être ça parce que je travaille quand même dans une entreprise où on saute de vie tous les jours avec nos technologies. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas m'arriver. Et finalement, j'ai tardé et j'ai fini par faire une palpation moi-même et j'étais prise en charge le lendemain. Voilà. Et donc, j'avais un cancer du sein invasif, lobulaire, troisième niveau. Ça avait commencé à partir un peu, à se propager un peu. Voilà. Donc, c'était pris in extremis. Voilà.
Et comment avez-vous été prise en charge?
Alors, j'étais prise en charge directement. On fait bien entendu confiance aux soignants, aux professionnels de santé autour de nous. Je me rends compte qu'on ne m'a pas forcément donné un choix et j'aurais voulu avoir le choix pour choisir un autre parcours parce que c'est un parcours de combattant. Je sais qu'il y a des sites qui font tout en une journée et on peut absolument tout faire sous un même toit. Presque tout le parcours d'un cancer de sein, alors que moi, j'ai été baladée entre beaucoup de sites. J'ai commencé à calculer tout ça parce que j'ai tenu un journal intime et j'ai sorti des statistiques et j'ai eu plus de 300 rendez-vous. J'ai voyagé plus de 3000 kilomètres. J'ai été entre 7-8 sites différents pour voir des experts ou des technologies toujours différents. Et donc, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui pour communiquer avec les femmes, pour leur dire qu'elles ont des choix, qu'elles peuvent anticiper, qu'il ne faut pas attendre, qu'il y a des moyens aujourd'hui qui sont vraiment faits pour les femmes, de la technologie dessinée pour des femmes, des parcours qui sont faits pour elles. Et je sais que la prise en charge de la femme peut être améliorée, mais de façon vraiment, vraiment marquante, et je me bats pour ça. Et c'est pour ça que je vais à l'encontre des femmes, pour leur ouvrir les yeux et leur dire qu'il y a un choix. On sait que la prévention, ça ne fonctionne pas avec des brochures ou des statistiques parce que vous allez entendre de beaucoup de statistiques au mois d'octobre, mais ce n'est pas ça qui parle aux femmes. Ce qui parle aux femmes, c'est de parler entre femmes. On s'échange une expérience avec des mots qu'elles comprennent, avec des mots qui soient peut-être culturellement sensibles à sa personne ou à, par rapport à ses traditions, sa famille, un héritage peut-être. Donc c'est là qu'on agit aujourd'hui, c'est évidemment apporter une histoire, raconter une histoire avec des mots simples, dans un langage, des choses qui parlent aux femmes. On sait que statistiques et des brochures, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on va à l'encontre des femmes. Et c'est pour ça que je monte dans ce camion pour aller à l'encontre des femmes, pour leur enlever toutes ces craintes et de les féliciter déjà de venir et d'avoir pris rendez-vous pour sa maman. Et celles qui hésitent encore, je suis là pour leur dire qu'il ne faut pas hésiter une seconde parce que rien qu'en deux jours, hésiter deux jours, ça peut vraiment changer la gravité de son cancer si jamais on trouve quelque chose. Donc c'est ça mon rôle aujourd'hui. Voilà.
Il faut donc absolument se faire dépister régulièrement pour éviter justement que les cancers soient trop graves.
Oui, absolument. Mais il faut vraiment aussi expliquer aux femmes qu'elles sont aussi un peu responsables d'elles-mêmes. Il faut connaître son corps. Il faut se palper soi-même sous la douche. Régulièrement, il faut surtout ne pas louper le dépistage. J'en parle, j'écris des histoires, je fais des blog posts, donc parce que chaque journée compte. Et surtout après le Covid, il y a un rattrapage à faire. Certes, on arrive à mieux faire au niveau de pourcentage de dépistage, mais il y a tant de choses à faire. On n'est même pas à 50%. Alors les 50%, il faut vraiment qu'on change notre mode de communiquer avec les femmes. Et je me répète, mais ça va avec ce camion-là, ça va avec un autre langage et d'aller vers les femmes où elles se trouvent, les choper sur le chemin de travail parce qu'elles mettent bien souvent ça de côté. Parce que bien souvent, on pense qu'on est un peu peut-être les moins prioritaires par rapport à nos enfants, nos maris, etc. Mais il faut que les femmes vraiment se disent qu'elles comptent. Voilà.
Le mot cancer fait peur. C'est pour cela, parfois, que certaines femmes hésitent à se faire dépister. C'est la peur d'entendre parler du cancer.
Oui, c'est la peur. Et on associe le mot cancer à la mort. Et bien souvent, dès qu'on ne serait-ce que sent quelque chose ou on a eu un dépistage, on nous dit « c'est pas très positif », et bien là, on vient souvent, les femmes vont sur Google et c'est là qu'on doit réfléchir à tout l'écosystème pour que ces premiers instants, les femmes sont prises en main par d'autres survivantes. Moi-même, je pourrais faire ça tous les jours pour montrer que « regarde, ça peut faire peur, mais regarde comment ça peut être aussi une histoire positive. Je vis moi-même une histoire complètement incroyable. La preuve en est, c'est que je suis là avec vous aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut dédramatiser le mot cancer, mais quand c'est pris à temps, c'est quelque chose qui est vraiment gérable. Certes, on devient quand même une autre femme, on a un autre point de vue sur la vie. Mais en général, ça va un peu vers le mieux. C'est ce que j'aurais tendance à faire.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut se renseigner. Il ne faut pas être passive face au parcours qui est proposé par les soignants. Il faut se renseigner, étudier toutes les possibilités. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui ne savent pas vers qui se tourner lorsqu'elles apprennent la mauvaise nouvelle, elles ont un cancer du sein?
Oui. Alors, il y a beaucoup d'associations. Il y a aussi il y a des organisations. Il y a énormément de groupes sur les réseaux sociaux auxquels on peut vraiment faire confiance. Il y a plein de femmes comme moi qui sont là justement dans des structures d'accueil ou sur des blogs où on peut échanger en direct pour vraiment avoir des mots qui leur parlent. Et aussi parce que quand on reçoit un diagnostic, bien souvent c'est codé et les femmes ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que j'apporte beaucoup d'importance à l'annonce des résultats, le lieu, la salle d'attente et quelle est la prise en charge de la femme dès qu'elle quitte le site ou le docteur qui l'a annoncé des choses.
Cécilia Olson au micro de Loïc Barrière. Le camion Octobre Rose se situe donc place de la République à Paris. Il y restera jusqu'à vendredi prochain avant de sillonner l'Île-de-France. Deux attaques suicides ont eu lieu hier en Somalie. Au moins 9 personnes ont été tuées, 10 autres blessées. Attaques revendiquées par les Chebabs. Les terroristes ont utilisé 2 véhicules remplis d'explosifs. L'Arabie Saoudite a été désignée pour accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver de 2029 à Neom, une future mégalopole futuriste. Elle est en construction dans le nord-ouest du royaume, une région désertique. La Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon, une première depuis 2017. Le missile s'est guillemets, dans le Pacifique, à l'est de l'archipel. Un test vigoureusement condamné par Tokyo. En France, Emmanuel Macron souhaite que la réforme des retraites soit adoptée avant la fin de l'hiver. Il y a quelques jours, le président français a brandi la menace d'une dissolution en cas de blocage. La réaction de Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité.
On voit bien que, comme dans sa propre majorité, de M. Bayrou jusqu'à la présidente de l'Assemblée nationale, qui ont dit qu'il n'était pas opportun de faire voter une contre-réforme allongeant le droit d'accès à la retraite à 65 ans, comme il le dit aujourd'hui, n'était pas acceptable, et qu'il y a quand même une majorité de la population, 74% des gens sont contre cette réforme. Aujourd'hui, il brandit cette menace, non pas parce qu'il compte la mettre à exécution, mais parce qu'il veut ressouder sa majorité. Il fait peur à ses députés en leur disant « si vous ne me suivez pas, je dissoudrai l'Assemblée et advienne que pourra ». Je pense d'ailleurs qu'il serait battu.
Que pensez-vous du calendrier voulu par Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites? Il veut que le texte soit adopté avant la fin de l'hiver.
Oui, mais les enjeux de méthode comme ceux de calendrier et la volonté d'aller vite ne sont évidemment pas justifiés. La question fondamentale, c'est le fond. Le fond, c'est qu'on va repousser l'âge de la retraite, dit-il maintenant, à 65 ans, après avoir dit le contraire entre le détour des élections présidentielles. Ne l'oublions pas. En plus, il va baisser le niveau des pensions, alors qu'il n'y a strictement aucune urgence. Le Conseil d'orientation des retraites a dit que nous étions largement à l'équilibre, et de toute façon, on peut trouver des moyens de financer les retraites, notamment par le plein emploi et en mettant à contribution un peu plus les cotisations sociales des employeurs qui aujourd'hui ne sont pas au niveau où ils devraient l'être. Et donc il fait ça en disant qu'il va utiliser une partie de cet argent-là pour d'autres investissements, mais il trompe les gens. Les caisses de sécurité sociale, ce n'est pas fait pour faire des routes ou pour construire je ne sais quel bâtiment. Les caisses de sécurité sociale sont la propriété des assurés sociaux, et ce qu'on a quand on a l'assurance maladie ou qu'on a la retraite, on a un salaire continué. Et ce salaire continué ne peut pas être aujourd'hui détourné pour faire autre chose comme il veut aujourd'hui le faire. Et ce qu'il y a aussi derrière, c'est qu'il veut respecter la trajectoire budgétaire que donne le gouvernement français aux autorités européennes qui regardent ça sur 5 ans en obligeant à revenir à l'équilibre des comptes publics. Donc il y a une double pression qui s'exerce qui n'est pas du tout justifiée.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité, il répondait à Loïc Barrière. La première ministre a annoncé la mise en place d'une aide financière à partir de fin novembre pour les ménages français qui accueillent des déplacés ukrainiens chez eux. Une aide de 150 à 200 euros pendant quelques mois. Elisabeth Borne a salué l'accueil de plus de 100 000 Ukrainiens qui, dit-elle, s'est organisé rapidement, efficacement, dignement. L'invité de Pluriel hier soir était Jean-Marc Governatori, co-président de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice. Il se félicite de l'augmentation du budget pour l'environnement, mais selon lui, les Français n'ont pas encore conscience de la raréfaction de plusieurs matières premières dans les 30 prochaines années. Jean-Marc Governatori.
Ah, moi, je pense qu'il faut éduquer à l'environnement de 7 à 77 ans. On est tous concernés. C'est tellement grave ce qui se passe. Et là, on est en train de créer une impasse parce que l'inflation, elle est d'abord créée par la raréfaction des matières premières. Tout est rare et cher et tout devient rare parce qu'on est on pille la planète. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut vraiment donner les éléments à la population pour qu'elle connaisse la population, pour qu'elle connaisse la situation, parce que mener une action politique pour l'écologiste centriste que je suis, c'est faire de la pédagogie. Et faire de la pédagogie, c'est expliquer la situation. Et quand vous expliquez la situation, les gens ne sont pas débiles, hein. ils comprennent qu'ils doivent évoluer dans le mode de vie.
Alors, est-ce que la canicule subie cet été, qui s'ajoute à la crise de l'énergie, peut inciter les Français à modifier leur mode de vie de façon durable? Le mot qui a marqué cette rentrée, Jean-Marc Governatori, c'est la sobriété. Vous aviez parlé de frugalité heureuse.
Ben, tout à fait, vous m'avez bien informé. Dans mon livre de 2008, que j'ai écrit avec Albert Jacquard, j'expliquais qu'on pouvait doubler son pouvoir d'achat en réduisant son vouloir d'achat et en améliorant son savoir d'achat. Par exemple, acheter à plusieurs, échanger son temps, ses biens, ses compétences. Mais c'est vrai que bon, le fait est là, quoi. La planète, elle fait 12 800 km de diamètre. Soit on évolue par la souffrance, comme c'est le cas aujourd'hui et ça le sera de plus en plus, soit on évolue par la conscience. On regarde les faits et puis on adapte notre mode de vie. Et Pierre Rabhi lui a parlé de sobriété à juste titre en 2010. Et je pense qu'on peut vraiment faire de la Terre un paradis. Pour l'instant, on a choisi d'en faire un enfer.
Mais les Français ont tout de même changé certaines habitudes. Je pense par exemple à ces sites internet où l'on achète des vêtements d'occasion. Ça, c'est véritablement un phénomène de notre époque.
Ah, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de points d'espérance. Mais le niveau de dégradation des matières premières, de la biodiversité, de l'air, des terres et de l'eau est tel qu'il faut que le bateau tourne plus. Parce que quand vous avez un bateau aussi immense, quand vous changez juste un petit peu, avant de vraiment changer de direction, il se passera beaucoup de choses. Et malheureusement, ça va se faire dans la souffrance. Moi, je pense qu'on peut le faire dans la conscience. Mais je pense qu'il faut prendre un jour ou deux jours de pause où on ne fait que expliquer à la population ce qui se passe. Quels sont les faits en matière financière? Quels sont les faits en matière environnementale et sanitaire? Et je suis sûr que rapidement, on peut changer ce qui se passe et être très heureux quand même.
Jean-Marc Governatori, co-président de l'écologie au centre, conseiller municipal de Nice, invité de Pluriel hier soir. À 19h et 23h ce soir, Loïc Barrière recevra Corinne Narasiguin, numéro 2 du Parti Socialiste. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash en langue française. 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h17.